Cité Addict, votre rendez-vous santé sur Radio Cité Genève. Sophie Nicole, Gilles Miello.
Cité Addict, nous poursuivons notre thématique sur les dépendances comportementales. Bonjour Sophie Nicole.
Bonjour.
Directrice de la clinique Belmont et psychologue. Nous allons parler aujourd'hui de dépendance sexuelle avec vous également, Basile Varelzis, médecin addictologue. Bonjour.
Bonjour.
Sophie Nicole, la dépendance sexuelle, que l'on casse peut-être un petit peu les schémas. On a l'actualité qui nous a montré quelques cas relativement récents. C'était encore il y a un an. Même l'affaire DSK se poursuit actuellement avec tout un tas d'affaires qui sortent, qui finalement sont étouffées, etc. Bref, la dépendance sexuelle, on commence un peu mieux à percevoir de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des gens obsédés par la chose uniquement? C'est plus complexe.
Alors oui, effectivement, ce sont des gens obsédés par la chose. Oui, effectivement, c'est plus complexe. Il y a différents stades. Le premier stade, on aurait tendance à dire que pour les messieurs, ce sont des donjuans, des séducteurs. Pour les femmes aussi, des séductrices, ou alors on utilise des mots plus grossiers. Et puis effectivement, ce sont des gens qui vont être très ouverts, avoir peut-être envie d'avoir plusieurs partenaires, beaucoup parler de la chose, être très dans la séduction, avoir facilement un coup de nuit, comme on dit. Et puis, à ce moment-là, c'est perçu dans la société, c'est encore tout à fait accepté, tout à fait recevable, en fait. Hein. On va dire en général quand même que les personnes sont assez quand même bien portées sur la chose. Après, il y aura un deuxième stade où là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées parce que en fait, on va utiliser différentes formes de sexualité. Il y a des prises de risque, il y a aussi la notion d'exhibition aussi. Et puis, ça commence à coûter très cher parce qu'il faut savoir que ça soit sur Internet ou le téléphone ou les bars à champagne, et ben tout ça, ça coûte très cher. Et puis, la prostitution, ça coûte très cher aussi. Et puis, il y a aussi dans le langage, dans les actes, là, on commence à moins attendre en fait l'accord de l'autre. Donc, ça peut avoir des conséquences très fortes au niveau du couple, des conséquences très fortes au niveau du travail, des conséquences parfois aussi juridiques. Et puis ensuite, nous avons le troisième stade. Et puis là, le stade, ben voilà, c'est, on n'attend plus du tout l'accord de l'autre. Et puis là, effectivement, ce sont les viols.
La dépendance sexuelle, Basile Varelzis, c'est pas uniquement des gens célibataires qui sont concernés. Au contraire, plutôt des gens en couple, voire mariés. Oui, la plupart du temps.
La majorité des gens qui ont cette dépendance sont des gens qui sont en couple ou mariés. D'ailleurs, il faut comprendre quelque chose, que quand on parle dépendance, c'est que c'est une façon de fuir une souffrance. Okay?
Donc, je suis obsédé parce que je souffre.
Non, c'est pas une question d'obsession en tant que telle. Je fais un comportement de fuite qui me permet de me focaliser sur autre chose.
De chercher constamment ailleurs ce que je ne trouve pas à la maison, en clair, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est pas la souffrance ne vient pas forcément du couple. C'est que la personne elle-même a une souffrance. Okay? Que ce soit, elle est hyper stressée, elle a difficulté à gérer ses émotions, soit il y a des conflits au sein du couple, soit elle a déjà vécu des souffrances depuis son enfance qu'elle n'a jamais réglées, soit elle a des problèmes au travail, etc. Mais cette personne n'a pas la capacité de gérer sa souffrance d'une façon adéquate, donc elle va tomber dans une addiction. Okay? Et une addiction, au fond, c'est juste une façon d'échapper la réalité, de fuir de sa souffrance. Okay. Donc, imaginez que quelqu'un a une difficulté au sein de sa vie sexuelle avec sa compagne. Donc, c'est une vie qui n'est pas tout à fait épanouie. Donc, tout d'un coup, cette personne va commencer à rechercher le plaisir ailleurs, on peut imaginer. Hein. Ça peut commencer par la masturbation, puis ça peut avancer à juste à regarder quelques images sur Internet pour se stimuler le fantasme. Pour certaines personnes, ça suffit, ça ne va pas aller plus loin que ça, mais quand même, ça peut prendre des proportions importantes. C'est-à-dire, imaginez qu'au début, ça peut prendre 15 minutes, puis ça prend une heure, puis ça prend deux heures, trois heures par jour. Imaginez ce que ça donne si vous passez trois heures par jour à regarder des images pour essayer de pouvoir réussir à jouir. Okay? Ça va avoir un impact sur la vie de couple parce que la compagne va se dire « Tiens, voilà, il ne s'intéresse plus à moi, il n'est plus disponible. » Ça peut aller, ça peut déborder sur le travail. On a des situations où des gens vont commencer à télécharger des images sur le poste de travail. Et puis le chef entre et tout d'un coup, on découvre la personne en milieu de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire au travail. Et donc, il y a des conséquences, perte de travail, divorce, séparation. Okay? Et ça, c'est déjà juste au premier stade. Où l'action elle-même n'est pas considérée comme mauvaise dans la société.
Okay. C'est une sorte de quête du plaisir insatisfaite et finalement qui va de plus en plus loin, c'est ça? On en veut toujours plus?
Oui, il y a une perte de contrôle, il y a une tolérance, okay, il y a la persistance de l'activité malgré les conséquences graves. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les autres addictions. C'est la même chose avec l'alcool, par exemple. Quelqu'un qui va prendre un verre pour se détendre, qui tout d'un coup a besoin de 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, qui par la suite ne peut pas s'en passer. Et puis ça devient la bouteille tous les soirs. Okay. C'est un peu le même concept.
Sophie Nicole.
Une chose qui est importante aussi à parler, c'est la notion de honte. Hein. Souvent, finalement, les gens font un acting, c'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, hop, je me lance dans une relation sexuelle d'un soir avec une personne. Et puis parfois, j'ai peut-être poussé le truc un peu loin. Puis le lendemain, je me sens sale, je me sens honteuse, je me sens mal avec ça. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui poursuit beaucoup les dépendants sexuels, le sentiment de honte, d'être finalement parfois des monstres, enfin le sentiment d'être un monstre, le sentiment de faire des choses pas nettes.
Mais pour quelle raison, tant que les choses restent légales entre adultes consentants, pourquoi ce serait forcément sale, ou en tout cas avoir ce sentiment?
Parce que, de nouveau, c'est la problématique des limites par rapport à la relation à soi, et puis le besoin d'éprouver comme ça très fortement quelque chose, qui pousse souvent l'individu à aller dans des comportements qui d'habitude, selon ses valeurs, sont dites bien ou pas bien, en fait. C'est ça.
Mais au-delà du partenaire trompé, le fait d'être dans cette quête du plaisir, de multiplier les partenaires, en quoi est-ce que fondamentalement cela peut être répréhensible?
Alors, justement, c'est pas vraiment une quête de plaisir en tant que telle, hein, c'est une quête de fuite, hein, c'est j'ai besoin de ma dose pour me sentir bien. C'est pas la même chose que je fais ça juste pour avoir du plaisir. Ok? Alors, les conséquences peuvent être très graves, hein, dans le sens qu'il y a des conséquences pénales. Ça peut aller jusqu'au viol, comme on a dit tout à l'heure. Donc, dans les stades avancés de cette maladie où il y a cette perte de contrôle, on a besoin de faire de plus en plus pour avoir le même effet de dose. Okay? Et on arrive à faire des choses où on a un partenaire totalement non consentant. Et ça, c'est la voie directe pour aller à Chandonnan. Et d'ailleurs, à Chandonnan, il y en a plusieurs incarcérés qui ont une dépendance sexuelle.
Parce qu'au-delà de la multiplicité des partenaires, c'est la recherche aussi de l'acte sexuel en lui-même, peut-être de plus en plus trash.
C'est pas tellement que c'est plus... C'est, on a besoin de... Dans la tolérance, hein, dans toutes les addictions, on voit la même chose. Hein, on a besoin de plus en plus pour avoir le même effet. Donc, au début, imaginez qu'une masturbation toute simple va suffire, puis par la suite, il faut l'associer à certaines images, puis par la suite, il faut les images, entre guillemets, normaux ne suffisent plus, maintenant, il faut que ça soit un peu plus risqué, par la suite, les images ne suffisent plus du tout, il faut avoir un partenaire quelque part, puis par la suite, il faut avoir plusieurs, puis par la suite, il faut que ça soit un peu plus sadomasochiste, plus dans la violence, etc., et on peut imaginer où ça peut aller, ok? Donc ça, c'est très important à retenir qu'il y a cette perte de contrôle. C'est pas du tout une quête de plaisir. Une autre chose à retenir, c'est que les études qui ont été faites dans ces domaines aux États-Unis suggèrent que la majorité des gens qui ont une dépendance sexuelle ont subi soit un viol, soit des attouchements ou des abus sexuels dans leur enfance. Okay? Donc quelque part, on peut imaginer que c'est des gens qui essayent de recréer des choses, des abus qu'ils ont vécu eux-mêmes, pour essayer de les résoudre maintenant dans l'âge adulte. Mais on sait que ce n'est pas la façon de soigner, hein, ces problématiques-là.
On va écouter le témoignage de Jean-Pierre, 36 ans, a précisé, Sophie Nicole, que c'est votre voix que l'on va entendre. Vous retranscrivez en fait les propos de cette personne qui ne voulait absolument pas être reconnue. Donc le prénom est effectif, bien évidemment. Il ne voulait pas prendre le risque, même en maquillant et en masquant sa voix, il puisse être reconnaître. Donc ce sont ses propos, mais c'est vous, Sophie Nicole, qui nous traduisez ce qu'il nous raconte.
Ça a commencé à devenir un problème il y a vraiment 4 ans. J'ai toujours eu une hypersexualité, mais c'est vrai que plusieurs fois par jour, il fallait absolument que je me masturbe, et ça se manifeste aussi par les heures que je peux passer sur Internet, sur les sites pornographiques. J'ai compris que les choses étaient devenues plus compliquées pour moi parce que au travail, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et c'était un moyen que j'avais trouvé pour me détendre, pour me relâcher. Aujourd'hui, mon problème, c'est que je suis en couple depuis une année. Ma compagne est au courant, on en a parlé. On décide, et j'aimerais pouvoir me marier et fonder une famille. Et je me rends compte, aujourd'hui, cette obsession du sexe en permanence commence à devenir vraiment compliquée. Ce qui me fait peur, c'est ces impulsions que je peux avoir à des moments donnés, n'importe où, au travail, lors de réunions, et puis finalement, n'attendre plus qu'un seul moment de pouvoir aller me brancher sur Internet, voir ces images. Je pense que ça a aussi contaminé notre couple, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que pour pouvoir être excitée, pour pouvoir avoir une relation avec ma compagne, il faut toujours utiliser des discours, des positions. Finalement, j'ai l'impression que je ne peux plus faire l'amour normalement, que s'il n'y a pas tout ça, eh bien, je ne suis pas excitée, je ne peux pas. Je perds goût. J'ai déjà plusieurs fois essayé de me sevrer, d'arrêter tout ça, et en fait, dès que je le fais, je me rends compte que je me sens mal, je suis extrêmement tendue, et j'ai beaucoup. Je perds goût, en fait, à la vie, je me sens assez déprimée. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de consulter, de faire quelque chose pour m'en sortir, parce que je me rends compte que finalement, ça me fait beaucoup souffrir et c'est lourd à porter. Et à des moments donnés, je me sens vraiment un peu comme un monstre, un extraterrestre. Et voilà.
Voilà, Sophie Nicole, un cas là vraiment, vraiment atypique. 36 ans, Jean-Pierre, 4 ans seulement. Tout cela a commencé à cause du stress au travail et ça peut aller très très loin.
Oui, tout à fait. Alors, comme il explique bien, d'abord, il reconnaît avoir toujours eu une hypersexualité, comme il le dit. Effectivement, il se rend vite compte, il arrive à faire un rapport entre ce qui se passe à son travail, la pression qu'il subit en permanence, et puis le fait de pouvoir s'évader. Et ça rejoint ce que disait Basile tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus une recherche du plaisir et on fait l'amour ensemble et on se donne du plaisir mutuellement, mais c'est plutôt j'ai besoin d'un soulagement, j'ai besoin de lâcher la pression, j'ai besoin de m'évader. Et puis, comme il l'explique bien, c'est toute la notion de déprime et dépression quand il essaye vainement de diminuer ses activités, de diminuer sa consommation sexuelle. Il se sent extrêmement mal. Il parle aussi bien quand il explique ce qui se passe dans son couple aujourd'hui, à quel point il a envie de fonder une famille et à quel point il se rend compte aujourd'hui comme c'est un problème, puisque cette sexualité a contaminé son couple et qu'il n'arrive plus à avoir une relation sexuelle où je donne du plaisir à l'autre, l'autre me donne du plaisir, on est ensemble, on fait l'amour, mais c'est une consommation. Et voilà, c'est ce qu'il explique bien.
Vous expliquiez tout à l'heure en introduction de cette thématique, Sophie Nicole, justement, qu'il avait aussi cette volonté de séduire, ce côté un peu Don Juan, de séduire pour avoir le sentiment d'être aimé. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, fait qu'on a aussi besoin de conclure ? Parce qu'on pourrait se satisfaire simplement de cette solution, de dire, voilà, j'ai séduit la personne, je ne vais pas mettre mon couple en danger, je n'ai pas besoin d'aller au-delà, ça me suffit, ça me conforte dans mon moi et dans ma confiance en moi.
Bah, c'est de se rendre compte, effectivement, on peut utiliser l'orgasme comme on utiliserait un verre d'alcool, en fait. C'est l'effet qui permet, effectivement.
Parce qu'on peut apprécier le vin et pas forcément l'avaler, vous voyez ?
Tout à fait. Non, je ne suis pas sûr de l'image que vous donnez
non,
là.
Non, si. C'est-à-dire, on peut séduire, mais
délicat,
sans forcément
ce que
consommer.
Vous venez dire là.
C'est vrai, c'est un peu chaud. Non, mais on peut séduire sans pour autant consommer.
Oui, mais là, effectivement, c'est exactement... Alors, si on prend l'image du vin, il y a la personne qui est dépendante à l'alcool, finalement, elle s'en fout de la qualité de son verre de vin. Ce qui compte, c'est l'effet de l'alcool. Et là, effectivement, dans la dépendance sexuelle, c'est pareil. Finalement, que la personne soit belle, moche, grosse, mince, qu'elle me plaise, qu'elle me plaise pas, finalement, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce que je vais foutre, en fait, excusez-moi, mais finalement, c'est ça, hein, c'est la consommation pure et l'obtention de l'effet de la consommation.
Et la masturbation ne peut pas suffire, justement, à avoir ce petit shot, ce côté orgasme, simplement. On est obligé vraiment d'aller toujours plus loin.
Non, ça peut suffire pour beaucoup de gens, ça peut suffire au début, mais parfois, on peut voir...
C'est quoi qui nous fait basculer?
On ne le comprend pas tout à fait dans les addictions. Hein. C'est très variable d'une personne à l'autre. Mais même si on reste dans le registre de la masturbation, ça peut passer de, par exemple, une ou deux fois par semaine, à une fois par jour, à plusieurs fois par jour. J'en ai eu des cas où on avait des gens qui se masturbaient 10 fois, 15 fois par jour. Vous imaginez combien de temps ça prend? C'est-à-dire, ces gens-là n'arrivaient plus à aller au travail, n'avaient pas d'autres relations, ils étaient tout à fait isolés, coupés du monde, parce qu'ils passaient tout leur temps à se masturber. Oui. Et ça peut aller, on retrouve ça, que ce soit la personne toute seule, que ce soit la personne qui va aller, par exemple, dans les soirées où on rencontre plein de gens, dans des saunas, par exemple. Et là, ils vont avoir plusieurs partenaires, un après l'autre, ils vont pas arriver. La dose, juste une relation avec une personne va pas suffire. Oui, ils vont avoir besoin de 10, 15, 20 fois pour, donc ça, c'est dans le vide. Il n'y a pas ce plaisir, il n'y a pas cette dégustation. Tiens, voilà les choses que je découvre. C'est pas du tout ça. C'est, je recherche ma dose.
Et pourquoi ces personnes restent en couple? Déjà, est-ce qu'elles peuvent rester en couple? Il y a bien un moment donné où le partenaire quand même voit qu'il y a un souci et c'est difficile de rester discret très très longtemps, docteur Varlis.
Justement, alors la dépendance sexuelle est souvent associée à la dépendance affective. Donc c'est souvent des couples qui ont peur d'être abandonnés et qui ont peur d'être étouffés. Donc souvent dans la dépendance affective et sexuelle, on a une personne qu'on appelle la dépendante, une autre qu'on appelle la fuyant. Alors, la dépendante souvent a été décrite comme étant une femme qui a plutôt une anorexie sexuelle, donc qui n'est pas très sexuelle, mais qui est plutôt branchée sur la personne, sur son mari, sur son homme, sur l'homme, sur la relation. Ne me quitte pas, hein, sur tout ça. Donc, elle est prête à accepter presque tout pour garder ce couple, parce que sinon, si ce couple s'effondre, elle se sent abandonnée, elle risque de se suicider. De l'autre côté, il y a le fuyant qui typiquement a été décrit comme un homme. Et là, c'était quelqu'un qui ne m'étouffe pas. Hein. En même temps, il a peur d'être abandonné. Donc, il n'ose pas quitter parce que lui aussi, il a la trouille d'être abandonné. Elle, en même temps, elle a la trouille d'être étouffée. Donc, elle a peur d'être abandonnée consciemment. Inconsciemment, elle a peur d'être étouffée. Donc, ça lui convient tout à fait d'être avec un partenaire qui n'est pas tout à fait là. Vous voyez, donc les deux, ils ont ce problème de l'intimité. Et donc, lui, il va aller s'échapper dans le sexe, souvent, hein, si c'est pas dans une autre addiction, mais souvent, c'est dans le sexe. Tandis que elle va s'échapper dans les ruminations. Elle va passer tout son temps à penser à lui, à penser à sa relation. Comment est-ce que je peux faire pour le séduire, pour le manipuler, pour qu'il revienne, pour que je le perde pas. Okay. Et donc, vous imaginez la violence, le conflit qui existe au sein de ces couples-là qui ont de la peine à rester ensemble, mais qui ont encore plus de peine à se séparer.
Et Sophie Nicole, cette dépendance sexuelle, quand on voit ce schéma justement dans le cas de ce couple fuyant et celui ou celle qui tient absolument à rester, ne pas arriver à faire le distinguo entre l'amour et le sexe avec le même partenaire, on peut très bien arriver, et c'est le cas de la plupart des gens, à faire les deux avec une personne. En quoi cette relation est à mettre en exergue finalement? On est dans un schéma de société, c'est l'éducation judéo-chrétienne, c'est quoi qui fait que ce schéma-là, on dit que ça ne va pas, c'est une dépendance sexuelle et il faut se soigner?
En fait, comme on le dit souvent, on a des terrains facilitateurs. Hein. Ça dépendra beaucoup de son histoire, ça dépendra beaucoup de ce qu'on a vécu et ce qu'on a reçu comme éducation, comme programme, ce qu'on nous a montré. Et effectivement, ces personnes-là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion de souffrance. Ça veut dire finalement, je ne suis plus dans la conscience de moi, dans la conscience de l'autre, dans la conscience du nous, mais je suis simplement dans la recherche d'un soulagement, en fait. Et effectivement, ce qui est terrible, c'est ce sentiment de honte et de mal-être avec le sentiment de tabou. Donc c'est très difficile d'en parler, c'est très mal vu dans la société, c'est bien pour ça que les personnes ne sont pas d'accord de témoigner ou ont très peur de témoigner, parce qu'effectivement elles sont vues comme des pestiférées, et ça effectivement c'est extrêmement lourd à porter.
Alors les dépendances sexuelles se traduisent également au féminin, il ne s'agit pas de messieurs, il y a également des dames, des demoiselles qui souffrent de ce mal, comme Anaëlle, 29 ans. Comme tout à l'heure, Sophie Nicole, c'est vous également qui reprenez ces propos. Anaëlle, 29 ans, elle a le plaisir d'être désirée, mais forcément, ça lui pose aussi quelques problèmes.
Au début, pour moi, ce qui était important, c'était de plaire, de séduire. J'étais flattée par l'idée que les hommes me désirent. Et j'avais le sentiment d'être une femme libérée parce que... Voilà, je vivais pleinement ma sexualité, je pouvais avoir plusieurs relations avec différents hommes, et je me disais, voilà, c'est ça, je suis accomplie, je suis libérée, je m'assume, et je plais, et ça me plaît de plaire, et ça me plaît. J'avais vraiment l'impression d'avoir comme ça une sorte de vie parallèle par rapport à mon travail et de pouvoir complètement m'éclater, m'amuser. Et ça me paraissait parfaitement normal. Je suis partie en vacances une fois avec une amie et je me suis vraiment amusée pendant toutes ces vacances, pendant ces 15 jours. Et je n'ai pas compris pourquoi à la fin des vacances, cette amie était très agressive à mon encontre, m'insultant, me traitant de traînée. Me traitant de pute, et je ne comprenais pas. Je dis que moi, j'étais là pour m'amuser, et elle me dit, mais tu penses que c'est normal, en 15 jours, d'avoir des relations avec 23 hommes différents? Et à ce moment-là, sur le moment, sur le coup, moi, j'étais choquée qu'elle me voie ça comme ça. Moi, j'avais l'impression d'être... quelqu'un de libéré, quelqu'un qui allait bien. Et puis, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'elle avait raison. Elle avait raison, effectivement. Tout ça est devenu de plus en plus compliqué pour moi. Tout ça est devenu de plus en plus difficile. Et puis, c'est vrai que finalement, je me rends compte que j'avais construit mon image de moi, mon estime de moi, à travers cette capacité de pouvoir plaire. Aujourd'hui, je fais un travail sur moi, je comprends un peu mieux aussi par rapport à mon enfance, par rapport à ce que j'ai pu vivre avec mes parents. Et je me rends compte que, voilà, aujourd'hui, on peut être autrement, on peut vivre des relations différentes.
Voilà donc ce témoignage d'Anaëlle, 29 ans, que vous avez retranscrit avec votre voix, Sophie Nicole. On a entendu le témoignage de Jean-Pierre également tout à l'heure. Deux témoignages, hein, un point de vue masculin, un point de vue féminin. Et on le voit finalement, le mal est le même. Il faudra peut-être que d'ailleurs que ces deux personnes se rencontrent. Ça pourrait faire un clash, moins par moins, égale plus, non?
Alors effectivement, on travaille dans les groupes et les personnes ont la possibilité de réaliser qu'effectivement leur trouble est le même chez le voisin, même s'il s'exprime différemment. Ça les aide beaucoup à se dédiaboliser, puis à réaliser qu'ils ne sont pas des extraterrestres et puis qu'ils souffrent d'une maladie, ils ne sont pas nés comme ça, et que c'est quelque chose qu'on peut traiter. Ce qui est important dans ce que dit Anaëlle, c'est qu'effectivement, dans son côté, elle l'exprime bien. D'abord, c'est une belle femme, c'est une femme qui a une position importante, et puis finalement, elle construit l'estime d'elle-même et l'image d'elle-même sur cette capacité de séduction. Elle n'est pas de nouveau dans la recherche du plaisir, mais dans la recherche de ce rapport à la séduction. C'est ça qui la soulage, c'est ça qui lui apporte un sentiment de contrôle, de bien-être. Donc en fait, elle renforce ses schémas et elle renforce surtout son état d'estime d'elle-même qui, dans le fond, est extrêmement mauvaise.
Mais si elle est heureuse comme ça?
Alors, effectivement, comme elle l'explique bien, pendant toute une partie, elle était convaincue que c'était comme ça que de se montrer une femme libérée, de se montrer une femme particulièrement intelligente, ouverte. Et puis, rapidement, au bout d'un moment, elle se rend compte que ça devient très compliqué parce que, comme le disait tout à l'heure Basile, ça prend énormément de temps, ça envahit toute sa vie et finalement, ses proches commencent à lui renvoyer une image d'elle-même assez terrible.
Docteur Varalzis, on peut en guérir de cette dépendance sexuelle? Est-ce qu'on ne doit pas compenser par une autre addiction?
Pas du tout. On peut guérir, mais ça prend un travail de relativement longue durée. Ça prend 2 à 5 ans de travail thérapeutique. Ça passe par une thérapie individuelle et en groupe. Le groupe est essentiel dans le traitement de cette maladie parce qu'on va travailler sur le respect, sur les limites, sur la peur d'être abandonné, sur la peur d'être étouffé, sur le fait qu'on a l'impression de ne pas appartenir, de ne pas être aimé. Et donc tout le travail de groupe aide la personne à, et ça c'est des groupes fermés à long terme, c'est-à-dire où la personne commence à avoir cette notion que oui, j'ai ma place, je suis accepté, je suis aimable. Okay.
Je n'ai pas besoin donc de rentrer dans ces relations sexuelles multiples. Mm-hmm. C'est un petit peu ça le message. Encore une fois, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.radiocité.ch. La dépendance sexuelle, nous poser également vos questions. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle thématique avec Sophie Nicole et avec Basile Varelzis, médecin addictologue, pour parler cette fois de la codépendance. Dans un instant, le Flash Info de Cléa Favre.
Cité Addict.